Alors après avoir vu les deux premières composantes, la lithosphère et l'atmosphère, on va donc maintenant faire une présentation rapide de la troisième composante, qui est l'hydrosphère. Alors en termes d'enjeux, l'hydrosphère c'est très important évidemment, puisque l'eau est essentielle à la vie. Hein, l'eau est essentielle à la vie pour la consommation que l'on va avoir directement. Il faut bien boire pour vivre, on ne peut pas s'en passer. C'est également indispensable pour la production d'aliments, pour la production de céréales, de viande, etc. C'est aussi indispensable à de nombreux processus industriels pour construire les objets qui nous entourent. Le cycle de l'eau renferme également un certain nombre de phénomènes, de processus qui vont générer des risques pour les sociétés. Par exemple, un des plus connus, c'est peut-être les inondations. Hein. Donc quand il se passe certaines choses dans le cycle de l'eau, quand certains processus se déroulent, le niveau d'eau dans les cours d'eau va monter, ça va déborder, ça va créer des inondations, avec des dégâts, comme on peut le voir sur les illustrations ici, de l'impact des inondations en Russie qui se sont déroulées ici en été 2012. Quelques définitions avant de présenter l'hydrosphère. L'eau, c'est quoi? L'eau, c'est un liquide transparent, sans saveur, sans odeur, formé par la combinaison de l'oxygène et de l'hydrogène. On a deux atomes d'hydrogène. Un atome d'oxygène, c'est ce qu'on appelle H2O. Hein. Alors, cette eau, elle est répartie à l'échelle de la Terre, elle est présente entre la lithosphère, qu'on a vue précédemment, et l'atmosphère, qu'on a aussi vue précédemment. Et l'hydrosphère, c'est justement ce qu'on appelle, c'est cette couche d'eau, si vous voulez, c'est la totalité des eaux de la planète, comprise entre l'atmosphère et la lithosphère, qui comprend les océans, les mers, les lacs, les cours d'eau, les glaces, les eaux souterraines, mais aussi l'eau qui est présente dans l'atmosphère. Alors, ce n'est pas une très forte proportion, mais il y a aussi une présence d'eau dans l'atmosphère. Et l'eau qui est présente dans les êtres vivants. Donc, cette hydrosphère, comme je disais, elle est présente entre la lithosphère et l'atmosphère. Il y en a une petite partie qui est présente dans l'atmosphère quand même, c'est la vapeur d'eau qui est dans l'atmosphère. Et une petite partie qui est présente dans la lithosphère, ce sont les nappes souterraines. Donc, elle est comprise entre les deux, mais il y en a une petite partie qui se chevauche. Pour étudier l'hydrosphère, il y a plusieurs disciplines qui s'intéressent à l'hydrosphère, à la dynamique du cycle de l'eau. Hein, il y a l'hydraulique, etc. En géographie, c'est essentiellement l'hydrologie qui s'intéresse au cycle de l'eau, puisque l'hydrologie, on peut la définir comme l'étude de l'eau. Alors, dans sa répartition géographique, où est-ce qu'on trouve de l'eau? Dans sa mobilité, comment est-ce qu'elle se déplace? Comment est-ce qu'elle passe d'un compartiment à l'autre? Dans ses relations entre les êtres vivants? Comment l'eau va influencer la croissance de la végétation, dans son utilisation par l'homme, quelles ressources l'homme va tirer de l'eau, et puis dans les risques qu'elle provoque ou qu'elle génère pour les populations. Okay. On distingue aussi parfois trois sous-parties à l'hydrologie en fonction de l'objet qu'on étudie, l'hydrologie continentale, l'hydrologie océanique et l'hydrologie lacustre, respectivement pour les gens qui vont travailler sur les continents, sur les océans ou sur les lacs. Donc, dans cette partie sur l'hydrosphère, de présentation générale de l'hydrosphère, on va voir deux points. D'abord, le cycle de l'eau, et puis ensuite, la répartition de l'eau à l'échelle planétaire, et puis les conséquences que ça a pour les sociétés. Donc, dans le cycle de l'eau, d'abord, les formes de l'eau, je vous ai dit, il y a que l'eau, c'était quelque chose de liquide. Et en fait, l'eau, c'est pas uniquement liquide. C'est liquide dans sa forme dominante, puisque entre 0 et 100 degrés, l'eau est sous forme liquide, mais en fait, les molécules d'oxygène et d'hydrogène, les molécules d'H2O, elles peuvent s'agencer de façon différente en fonction de la température. Quand la température refroidit, passe en dessous de 0 degré, les molécules vont s'accrocher les unes aux autres dans une structure très bien ordonnée qu'on peut voir ici sur l'illustration en haut à droite, et ça va former de la glace. Donc, comme les molécules sont bien accrochées les unes aux autres, cette glace, elle est résistante en fait. À l'inverse, quand on dépasse les 100 degrés, que la température augmente, les molécules, au contraire, vont se désorganiser complètement, elles vont se séparer les unes des autres, les molécules de H2O, et l'eau va devenir un gaz. Hein? Donc en fait, il y a trois formes d'eau possibles, une forme liquide, une forme gazeuse ou une forme solide. Alors, cette eau, si on s'intéresse aux formes d'eau cette fois-ci, pas dans leur état, mais dans leur répartition, où est-ce qu'elles sont situées, eh ben, l'eau solide, les glaces, ben, elles sont situées dans les glaciers. Okay? On estime que ça représente à peu près 2% du volume d'eau présent total sur la planète Terre, et que le turnover, le temps de renouvellement de ces glaciers, c'est compris entre une dizaine d'années pour les tout petits glaciers, mais généralement c'est plutôt en milliers d'années. Hein. Quand on parle de temps de renouvellement, c'est le temps qu'il faut à l'eau qui est comprise dans les glaciers pour avoir fait tout un cycle, c'est-à-dire partir, arriver dans un glacier, avoir une vie entre guillemets dans le glacier, fondre et repartir ensuite et revenir dans un autre glacier. Pour l'eau liquide, qui constitue l'essentiel de l'eau présente sur la Terre, on a un gros volume d'eau présent dans les océans, 97%, avec un temps de renouvellement de 2 à 3 000 ans. Ensuite, le deuxième gros compartiment de l'eau liquide, c'est l'eau souterraine, qui est présente dans la lithosphère. Et ensuite, c'est les lacs et les rivières, là, avec des proportions beaucoup plus faibles, hein, 0,01% pour les lacs et 0,0002% pour les rivières. Et puis enfin, dans l'atmosphère, on a un mélange d'eau liquide et gazeuse, hein, mais qui sont des proportions très faibles, avec des turnovers, là, très importants. Important pour les sociétés, sur ce volume d'eau, vous voyez que l'essentiel est constitué d'eau liquide, d'accord, mais salée dans les océans. Et ça, c'est un vrai problème parce que l'eau salée, on ne peut pas la consommer nous directement, on ne peut pas arroser des champs avec de l'eau salée parce qu'on ne le supporterait pas nous pour l'alimentation et puis parce que les espèces qu'on cultive ne supportent pas l'eau salée. Donc, sur ce volume d'eau qui est présent à la surface de la Terre, il n'y a que 2,5% d'eau douce, donc consommable directement par les hommes. Et encore sur ces 2%, sur ces 2,5%, il y en a 2% qui sont bloqués dans les glaciers sous forme de glace. Donc en fait, ça veut dire qu'il n'y a que 0,5% de l'eau globale qui est présente dans l'hydrosphère, qui est directement accessible pour les sociétés humaines, ce qui en fait finalement pas beaucoup. Alors on peut aborder la question des formes de l'eau avec un angle un peu différent, qui est plutôt celui des sociétés cette fois-ci, des hommes, et de regarder comment elle est utilisée cette eau, à quoi elle sert. Donc là, parfois on distingue trois formes d'eau différentes. Ce qu'on va appeler l'eau verte, qui est une eau que l'on utilise très indirectement, c'est-à-dire que ce n'est pas une eau qu'on va manipuler, c'est les volumes d'eau de pluie qui sont stockés naturellement dans le sol et qui vont être utilisés par la végétation dans les surfaces cultivées, par exemple. Donc l'eau, elle tombe du ciel, elle va dans le sol et puis elle est réutilisée par les cultures. Mais là, il n'y a pas vraiment d'intervention anthropique sur cette eau verte. L'eau bleue, en revanche, c'est l'eau que nous, on va prélever, l'eau douce que l'on va capter dans les nappes phréatiques, dans les rivières, dans les lacs, et qu'on va utiliser. Alors à quoi on va l'utiliser, cette eau? On va l'utiliser soit à des usages domestiques, boire, se laver, etc., soit à des usages industriels, produire des ordinateurs, des disques durs, des choses comme ça, soit à l'agriculture. Là, on va irriguer. Hein. Dans l'agriculture, parfois, on peut faire de la culture sans irriguer, donc là, c'est l'eau verte, mais parfois, il faut apporter un complément, c'est de l'irrigation. Donc, dans cette eau bleue, on estime qu'à peu près la répartition des usages, c'est 10% un peu moins de 10% pour les usages domestiques, 20% pour les usages industriels et 70% pour l'agriculture, hein, ce qui est donc le volume le plus important. Et puis enfin, on a l'eau qui est usée, qui est dégradée, dont la qualité est dégradée, polluée, si vous voulez, par le processus de production industrielle, par exemple. Donc là, c'est l'eau qu'on va relarguer après une usine ou éventuellement à l'aval d'une ville. Hein, l'eau va être polluée par les différentes activités qui vont se produire dans cette ville. On peut aussi calculer le volume d'eau pour chaque nécessaire à la production de chaque objet de notre vie courante. Hein. Pour vous donner quelques illustrations, ici, on ne se rend pas bien compte parfois, mais par exemple, il faut de l'eau pour produire une tomate, ça semble assez évident, pour la faire pousser. Alors il y a à peu près 200 litres d'eau pour une tomate. Alors, on est à 2500 litres d'eau pour un hamburger, alors ça semble énorme, mais en fait, parce qu'il y a un processus industriel pour le pain et surtout il y a pour la viande. La viande, pour faire grandir ou pour élever des bœufs, par exemple, il faut beaucoup d'eau. Un hamburger nécessite l'utilisation de beaucoup d'eau. Un t-shirt va consommer quasiment autant d'eau, hein, parce que c'est fait en coton. Le coton, c'est une plante qui nécessite beaucoup d'eau. Alors, il y a différentes formes d'eau, et cette eau, elle est mobile, hein, puisqu'on parle de cycle. Il faut bien que l'eau soit mobile. Alors, on distingue plusieurs processus, plusieurs mécanismes, qui sont étudiés en détail par les hydrologues. Hein. Alors, on va avoir les précipitations, c'est la pluie, la neige ou la grêle. Ça, c'est l'eau qui tombe du ciel en direction des continents. L'évaporation, c'est l'eau qui retourne à l'atmosphère quand elle est évaporée sous l'effet de la chaleur. Donc ça, c'est de l'eau liquide qui redevient de l'eau gazeuse. La transpiration, c'est la végétation qui va consommer de l'eau liquide et qui va relarguer dans l'atmosphère de l'eau gazeuse sous forme de transpiration. L'infiltration, là, c'est quand l'eau qui arrive depuis les précipitations va s'infiltrer en profondeur et aller recharger les nappes phréatiques, les nappes souterraines, par exemple. Le ruissellement, c'est l'eau qui arrive sur les versants puis qui va s'écouler. Et cette eau, elle va s'écouler d'abord de manière un peu informelle sur les versants, et puis ensuite, elle va se regrouper et elle va s'écouler dans des cours d'eau, par exemple. Et là, on va parler d'écoulement. L'écoulement peut aussi être souterrain. Dans les nappes souterraines, y a un écoulement qui se produit sous l'effet de la gravité. Donc, vous voyez, on a dans notre cycle de l'eau des compartiments et de la mobilité entre ces compartiments sous l'effet de plusieurs mécanismes, plusieurs processus que l'on vient de citer ici. À l'échelle mondiale, pour avoir des ordres de grandeur un petit peu, sur les continents, les précipitations en moyenne, c'est 700 mm d'eau, un peu plus, 720 mm d'eau. C'est ce qu'on observe dans les régions tempérées comme la France, hein, ou la Bretagne, par exemple. L'évaporation, 410 mm d'eau. Donc vous voyez que déjà, sur les 700 mm d'eau, il y en a 400 qui vont retourner à l'atmosphère sous forme de vapeur. Alors évidemment, là, ça pose un souci. Vous imaginez bien que s'il y en a 700 qui tombent et qu'il y en a 400 qui repartent, si les continents étaient totalement clos, bah, au bout d'un moment, ça déborderait, puisqu'il y a plus d'eau qui arrive que d'eau qui repartent. Hein. Ben, c'est parce qu'en fait, sur les océans, c'est l'inverse. Sur les océans, il y a une évaporation qui est plus importante, 1250, que la précipitation, 1120. Donc si vous voulez, sur les océans, il y a une évaporation forte, il y a plus d'eau qui s'évapore que d'eau qui est précipitée, et du coup, il y a une partie de cette eau des océans qui, sous forme de vapeur, va venir sur les continents, provoquer des précipitations, et qui ensuite, l'excès qui va se précipiter sur les continents, qui ne va pas être évaporé, va retourner à l'océan sous l'effet du drainage. Hein, c'est les cours d'eau qui drainent les continents. Donc là, on a à nouveau le cycle, hein, de manière globale, avec évaporation dominante sur les océans, transfert d'eau sur les continents, pluie, précipitation, enfin, ou précipitation, c'est-à-dire neige, pluie, grêle, drainage en direction de l'océan, et là, on a tout le cycle qui se forme. Voilà donc le cycle de l'eau, une présentation très simple de ce cycle de l'eau. On va donc maintenant voir les conséquences de ce cycle de l'eau et puis surtout comment cette eau elle se répartit à l'échelle mondiale. Là, je vous ai présenté des chiffres très globaux, mais on va voir qu'à l'échelle du globe, la distribution de cette eau elle est variable dans l'espace et que ça a des conséquences très nettes pour les sociétés. Alors regardons d'abord la distribution des précipitations à l'échelle du monde. Voilà une carte qui vous présente les moyennes annuelles de précipitations entre 1980 et 2004. Donc vous voyez sur une période d'à peu près 25 ans, sur toute la surface de la Terre. On a, alors, en termes de couleur, l'interprétation de cette carte, les zones où il pleut beaucoup, c'est le bleu, les zones où il pleut moyennement, c'est le vert, et les zones où il pleut pas beaucoup, c'est le jaune. Alors qu'est-ce qu'on observe? Les zones principales de précipitation, on a une ligne très nette qui se détache au niveau de l'équateur, c'est là qu'il pleut le plus, au niveau de l'équateur. Ensuite, quand on regarde, quand on s'écarte de l'équateur, on va avoir des zones, notamment sur les continents. On voit bien sur l'Afrique, par exemple, là, quand on va au nord de l'équateur, au niveau de l'Afrique, on voit une grande zone jaune, c'est le Sahara. Donc ça, c'est au niveau des tropiques. On a des zones où il pleut un petit peu moins. Ensuite, on a des zones vertes, c'est les régions tempérées où il pleut moyennement. Et ensuite, quand on va arriver au niveau des pôles nord ou pôles sud, on redevient sur des valeurs vert clair, jaune, c'est-à-dire des précipitations faibles. Donc en gros, il pleut beaucoup au niveau de l'équateur, il pleut moyennement au niveau des régions tempérées, nord et sud. Il pleut très peu au niveau des pôle nord, pôle sud et des tropiques. Donc vous voyez déjà qu'on a des différences qui peuvent être très importantes. Hein. Là, les extrêmes, il pleut 1000 mm d'eau dans des régions d'Asie du Sud-Est, au niveau de Bornéo, etc. Il va pleuvoir moins d'1 mm d'eau au niveau du Sahara, par exemple, par an. Donc vous voyez, on est sur des facteurs de 1 à 1000. Donc oui, il pleut, mais il ne pleut pas partout pareil. Alors pour réfléchir en termes d'eau disponible pour les hommes, il ne faut pas forcément regarder uniquement les précipitations parce qu'il y a de l'évaporation qui va se produire. Donc on va regarder la différence entre les précipitations et l'évaporation. Donc je réexplique. L'eau tombe, il y en a une partie qui retourne à l'atmosphère et finalement ce qui va nous intéresser c'est l'eau qui reste de tout ça. Celle qui est réellement disponible pour les hommes, c'est celle qui n'est pas évaporée. Donc cette eau qui est réellement disponible, on la représente ici sur la carte, c'est la différence entre précipitation et évaporation entre 1959 et 1997, toujours à l'échelle du monde. Et ben c'est la même chose que pour les précipitations, avec des petites différences, mais on observe quand même ça. C'est-à-dire qu'en vert, on a des régions excédentaires, si vous voulez, où il reste beaucoup d'eau. Et en jaune, on a les régions déficitaires. Alors qu'est-ce qu'on observe? Des régions excédentaires, ben on retrouve notre ligne au niveau des tropiques. On va avoir des régions un peu excédentaires au niveau des régions tempérées. Et on va avoir des régions déficitaires très ponctuellement, au niveau du bassin méditerranéen, par exemple, de l'Asie centrale, de l'ouest des États-Unis, où là on a des couleurs jaunes qui commencent à apparaître, où là on a des déficits en eau. Donc on va voir que là, d'une région à l'autre, on va avoir des disponibilités en eau qui ne sont pas les mêmes. Du coup, ça, en termes d'eau disponible pour les populations, on estime que si on prend toute l'eau précipitée à l'échelle du globe, ça fait à peu près 110 000 km³ d'eau. Alors ça ne dit pas grand-chose comme ça, 110 000 km³ d'eau. Si on enlève l'eau qui s'évapore, l'eau qui s'écoule en crue, qu'on ne peut pas récupérer, etc., ça veut dire que par habitant et par jour, ça fait 5 à 6 000 litres d'eau. Or, nos besoins, ils sont compris entre 500 et 2 000 litres. Les besoins, donc ça veut dire les besoins comme on l'expliquait tout à l'heure, les besoins individuels, hein, pour se laver, etc., mais les besoins aussi pour l'industrie, les besoins pour l'agriculture. C'est pour ça que ça fait beaucoup, beaucoup, parce que ça nous semble énormément. On ne consomme pas, nous, directement 500 ou 2000 litres d'eau par an, par jour, mais en fait, toutes nos activités, mises bout à bout, font qu'on consomme cette quantité d'eau-là. Alors évidemment, c'est hyper variable d'une société à l'autre. On estime qu'en Europe, un Européen moyen, c'est entre 500 et 1000. En Amérique du Nord, aux États-Unis, ça va plutôt être entre 1000 et 1500. Évidemment, ça dépend un peu des modes de vie, des pratiques, etc. Ramener à chaque pays, ça pose un problème. Parce que vous voyez, on a besoin de 500 à 2000, on a 5 à 6000. Bah, normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Alors, en fait, quand on regarde par pays, comme nous le présente la carte ici, bah, évidemment, chaque pays, lui, en fonction de sa localisation géographique et de la carte qu'on a vue précédemment, eh ben, en fait, il y a des pays qui vont se retrouver face à des quantités disponibles moyennes par habitant très faibles. Le Koweït, 30 litres par habitant et par jour. Donc, ça n'a rien à voir. Si on regarde sur la carte, en bleu clair, on a les zones où, qui ont une ressource faible, qui va leur manquer, si vous voulez, en quelque sorte, qui va être pas assez disponible. On va retrouver le Maghreb, la péninsule arabique, etc. Ben ça, c'est des régions comme les Émirats arabes unis, la Libye, etc. Vous voyez, on est à moins de 500 litres d'eau par jour et par habitant. À l'extrême opposé, on va avoir des pays où il y a des quantités d'eau énormes qui sont disponibles. L'Islande, la Russie. Vous voyez qu'on est sur des chiffres qui sont énormes. 50 000, 100 000, 1 million de litres par jour et par habitant. Donc, vous voyez qu'on a une eau qui est répartie différemment, notamment quand on la ramène au nombre d'habitants, qui va poser des problèmes, évidemment, alors des problèmes de manque pour les régions où il n'y en a pas assez, comme le Koweït, et des problèmes d'excès pour les régions qui en ont trop, comme le Bangladesh, qui est soumis à des inondations très importantes. Évidemment, le problème, c'est qu'on ne peut pas aussi simplement que ça transférer l'eau d'un pays à l'autre. Alors, ça va nécessiter quoi? Ça va nécessiter des adaptations. Ce n'est pas une contrainte qui est une contrainte définitive. Il n'y a pas de contrainte qui soit totale. On peut très bien imaginer qu'au Koweït, ils dessalent de l'eau de mer, par exemple. Hein, ils ont beaucoup de pétrole. Alors, le dessalage de l'eau de mer, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, on peut très bien imaginer qu'ils ont besoin d'eau. Donc, ils vont consommer une partie de leur pétrole pour dessaler de l'eau de mer. Donc, vous voyez, il peut y avoir des adaptations technologiques qui font qu'une contrainte naturelle ne va pas être si contraignante que ça. Mais il faut avoir la ressource disponible. On a donc fini sur cette composante liée à l'eau, hydrosphère. Et on va voir dans un quatrième point la partie liée à la biosphère.